RFI, il est 4h30 en temps universel, 6h30 à Goma. Lors d'un nouveau journal avec vous, Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, des combats à une vingtaine de kilomètres de Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo.
Combat précisément à Sake, entre les rebelles M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés. Alors que la ville de Goma a vu affluer hier des personnes effrayées par les violences, nous serons dans un instant à Rubavu, ville frontière côté rwandais, où certains gomatraciens ont choisi de se réfugier. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies dit craindre le risque d'une guerre régionale. Dans ce journal, également des heurts hier aussi au Mozambique, à l'un des points d'entrée par la route de Maputo, la capitale. Les automobilistes ont réussi à retarder la mise en place d'un péage. L'Afrique du Sud, où des familles se retournent contre l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, et l'accuse justement de ne pas en avoir fait assez en matière judiciaire pour juger les crimes du régime raciste sud-africain. Et puis dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Florence Valmet. On parlera ce matin de football et de basketball. Le secrétaire général des Nations Unies se dit alarmé, Antonio Guterres, qui condamne l'offensive en ce moment dans l'est de la République démocratique du Congo et des rebelles du M23. Pour le chef de l'ONU, elle accroît cette offensive le risque d'une guerre régionale. Des rebelles soutenus par le Rwanda qui sont entrés ces derniers jours dans les localités de Minova et de Bweremana. Hier, les combats entre ces rebelles d'une part et l'armée congolaise et ses alliés de l'autre. Ces combats se sont concentrés autour de la localité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, la grande ville de l'Est congolais, capitale de la province du Nord Kivu. Goma qui a vu affluer hier des habitants de Sake ainsi que de nombreuses personnes déjà déplacées. Alors que de leur côté, certains habitants de la ville, eux, ont préféré franchir la frontière rwandaise et trouver refuge à Rubavu. Reportage de Lucie Mouillot.
Devant la grande barrière, les taxis se pressent pour aborder les voyageurs arrivés de Goma en nombre avant la fermeture quotidienne du poste frontière en milieu d'après-midi. Une valise à la main avec ses deux enfants, Amina a préféré passer la nuit à Rubavu.
Mon mari habite ici. Il m'a dit de venir juste de traverser aujourd'hui avec les enfants pour cause des paniques qui est dans la ville de Goma. Pour la raison des guerres. Juste ça.
Une précaution prise par un certain nombre d'habitants de Goma, inquiets suite à l'intensification des combats dans la zone. Sac en main, Innocent Mansourou a décidé de traverser la frontière pour se réfugier dans un hôtel.
Au niveau de la douane, c'était plein à craquer. Quand on a de petits enfants, on ne va pas attendre et quitter à la dernière minute. Parce que tout peut changer, on ne sait pas. Nous, on n'est pas à la ligne de front. On ne sait pas ce qui se passe là-bas.
Dans un communiqué, la société civile de Goma appelle la population au calme et à ne pas quitter la ville. Mais les détonations entendues ce jeudi jusqu'à Rubavu ont poussé certains habitants à se mettre à l'abri.
Même maintenant qu'on se parle maintenant, il y a Inobi qui vient de se faire attendre jusqu'ici où nous sommes. Alors imaginez ceux qui sont de l'autre côté, c'est comme si ça explose juste dans la parcelle voisine. Voilà ce qui fait qu'on a décidé de quitter.
Comme beaucoup, Innocent prévoit d'attendre ici l'évolution de la situation sécuritaire en espérant pouvoir rentrer le plus rapidement possible à Goma. Lucie Mouillot, Rubavu, RFI.
Des routes encombrées hier également autour de Maputo, la capitale du Mozambique, en particulier autour du péage de la Nationale 4, l'une des portes d'entrée de la ville. Théâtre hier de heurts entre forces de l'ordre et des manifestants qui refusaient le rétablissement d'un péage. En fait, en raison des manifestations suite à l'élection présidentielle à la fin de l'année dernière, les barrières étaient depuis restées ouvertes, mais la gratuité était censée s'achever hier. Les automobilistes ont bloqué la route en protestation. Gaëlle Lalex.
Pneus brûlés, branchages et pierres ont fait leur retour sur la Nationale 4. Des files de voitures s'étendaient sur des kilomètres hier, incapables de pénétrer dans Maputo. La brigade d'intervention rapide mettra plusieurs heures à libérer la voie, tirant notamment des gaz lacrymogènes pour repousser ces deux jeunes manifestants. Face au désordre, Trans African Concessions, l'entreprise sud-africaine qui gère l'infrastructure, a renoncé à collecter le péage. Pour les partisans de l'opposant Venancio Mondlane, c'est une victoire. Les Mozambicains ont tenu bon. Adhérent au décret publié par le gouvernement du peuple, se réjouit l'organisation Justice Frontil Equitas. Mardi soir, le candidat malheureux à la présidentielle, qui revendique toujours sa victoire, a publié ce qu'il considère comme son premier décret. Parmi les 30 mesures annoncées, arrêtés se trouve la gratuité des péages que le décret qualifie de symbole flagrant de la dictature économique du régime. Même si ça n'en a pas l'air, nous vivons toujours dans une période de tension, explique Walker Diash, consultant en sciences politiques. Selon lui, le dialogue est impératif si le Frelimo au pouvoir veut sortir de la crise. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Le Mozambique, où l'Organisation de défense des droits de l'homme, Centre pour la démocratie et les droits humains, affirme que le journaliste Arlindo Chissal a été retrouvé mort 2 semaines après avoir été arrêté puis battu par les forces de l'ordre dans le nord du pays, région où il couvre notamment l'insurrection islamiste en cours depuis plusieurs années. Plus de 30 ans après, l'Afrique du Sud n'en a toujours pas fini avec l'apartheid. Aujourd'hui, des familles de victimes de ce système raciste en vigueur entre 1948 et 1991 se retournent contre l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Ces familles accusent le parti de ne pas avoir donné suffisamment de suite judiciaire à la commission Vérité et Réconciliation qui avait donné la parole aux victimes et aux bourreaux dans les années qui ont suivi l'avènement de l'ANC. Correspondance de Valentin Hugues.
Yasmine Souka était membre de cette commission Vérité et Réconciliation qui a pris fin en 1998.
Pendant 3 ans, la commission a entendu des victimes et des bourreaux. L'État devait ensuite prendre le relais et faire son travail, ouvrir des enquêtes, mais il ne l'a pas fait.
Depuis la fin de l'apartheid, il y a eu très peu de procès, alors les familles attendent toujours des réponses. Lucanio Kalata est le fils de Fort Kalata, militant anti-apartheid, tué en 1985 à 28 ans.
Ils ont brûlé son corps et lui ont arraché la langue. Puis, dans un pays devenu une démocratie, l'ANC est arrivé au pouvoir et mon père a été trahi. Parce que finalement, qu'est-ce qui est pire ? Le gouvernement d'apartheid qui a tué mon père ou l'ANC qui a refusé de lui rendre justice ?
Aujourd'hui, ces familles demandent donc des comptes à l'État. Odette Gildenius, avocate en charge du dossier.
La plupart des meurtriers sont morts. Le dernier recours pour ces familles, c'est de se tourner vers la Cour et forcer le président à identifier les politiques qui ont fait obstruction à la justice, comprendre pourquoi ils ont agi ainsi et réfléchir à ce qui peut être mis en place maintenant pour ces familles.
Des familles qui regrettent que 30 ans après la fin de l'apartheid, elles aient encore à saisir la justice pour espérer obtenir des réponses. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Moins de bases militaires, plus d'écoles. Voilà comment le ministère français des Affaires étrangères résume sa nouvelle stratégie sur le continent africain. Alors que les militaires français ont été contraints ces dernières années de quitter le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger et sont en passe de le faire également du Tchad et du Sénégal. La diplomatie française dit désormais vouloir se concentrer sur, je cite, plus d'initiatives visant à répondre aux aspirations de la jeunesse africaine et plus de réponses à nos priorités communes comme le climat, l'éducation ou encore la santé. La ministre britannique des Affaires étrangères, elle était en déplacement hier en Égypte. Au Caire, elle a notamment demandé la libération d'Alaa Abdel Fattah, militant des droits de l'homme et géré de la révolution égyptienne de 2011. Il possède également la nationalité britannique et il multiplie les séjours en prison depuis une dizaine d'années. Précision et explication avec Amira Swilem.
Face au silence des autorités égyptiennes, le ministre des Affaires étrangères britannique, David Lammy, assure que le cas de l'activiste binational reste, je cite, « la priorité numéro 1 de son ministère ». Cela fait des années maintenant que la famille de Alaa Abdel Fattah multiplie les actions pour attirer l'attention sur ce dossier, allant jusqu'à demander au président égyptien, El-Sisi, de le gracier. Figure de la révolution égyptienne, critique de Hosni Moubarak comme de Abdel Fattah El-Sisi, Alaa Abdel Fattah purgeait une peine de 5 ans suite à un post Facebook dénonçant la pratique de la torture en Égypte. Alors que sa libération devait intervenir le 29 septembre, la justice égyptienne a estimé que les 2 années de détention provisoire n'étaient pas prises en considération dans le calcul. Leila Swaif, la mère du dissident, elle-même militante des droits de l'homme, a entamé aussitôt une grève de la faim. Elle prévient qu'il n'y aura, je cite, que 2 issues à cette grève de la faim, son effondrement ou la libération de son fils. En Égypte, Amnesty International estime à 60 000 le nombre de personnes emprisonnées pour des délits d'opinion.
dans l'actualité des pays africains ce matin également. Ces déclarations de Yahya Jammeh, l'ancien président de la Gambie, qui dit son intention de rentrer au pays et de reprendre la tête de son parti politique. Yahya Jammeh qui vit en exil depuis sa défaite à l'élection présidentielle de 2017 et qui s'est exprimé via un message audio. Le mois dernier, la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a apporté son soutien à la création d'un tribunal spécial chargé de juger les crimes commis lors de ses mandats entre 1994 et 2017. Et puis l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine, a fait hier un point sur les efforts de vaccination en cours face à l'épidémie de Mpox en ce moment en Afrique australe, en particulier en République démocratique du Congo. La RDC qui vaccine notamment à Kinshasa. Et l'Africa CDC assure que 400 000 doses de vaccins ont été distribuées dans 5 pays. La RDC, le Rwanda, la Centrafrique, l'Ouganda, mais aussi le Nigeria. Écoutez le docteur Ngachi Ngongo, le référent Mpox au sein de l'Africa CDC.
En décembre, nous avions rapporté que 55 000 personnes avaient été vaccinées. Au cours des 4 dernières semaines, la majorité des vaccinations a eu lieu à Kinshasa, où ce chiffre est passé à près de 180 000 personnes vaccinées. Cela représente une augmentation de 125 000 individus supplémentaires. La campagne de vaccination se poursuit à Kinshasa, mais une évaluation a révélé des faiblesses dans le ciblage des populations et l'approche adoptée, en particulier dans des zones sensibles comme Paketshuma. Ces endroits, caractérisés par une forte densité de population et des comportements à risque, compliquent le contrôle des contacts. Pour mieux contenir l'épidémie, les autorités congolaises ont décidé de vacciner toute la population dans ces zones à haut risque et d'instaurer une vaccination quotidienne, ce qui n'était pas systématique auparavant. L'objectif est d'intensifier les efforts pour accélérer la réponse vaccinale. Avec ces ajustements, on espère stabiliser la situation d'ici la fin février ou le début du mois de mars.
Le docteur Ngachi Ngongo de l'Africa CDC, l'agence